Donc voilà pour plusieurs dimanches qu'on est sur l'histoire de Salomon dans le livre des rois. Et donc on découvre Salomon qui est quelque part un type de Jésus-Christ, comme David avant lui était aussi un type de Jésus-Christ. David, c'était le berger par excellence, c'était celui qui était comme un lion également quand il combattait. Et Salomon, c'est le roi type également. Nous avons vu au début donc d'un roi son arrivée au pouvoir, les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Et puis nous avons vu sa prière, la réponse à la prière de Dieu, comment il est devenu un roi sage suite à sa demande. Et ça montait comme ça, ça faisait un croissant. Et on a vu le sommet un petit peu hein, de son règne avec la construction du temple et la semaine dernière avec cette belle prière, cette belle dédicace du temple qui est inspirante, je dois dire, pour tous les hommes peuvent vraiment avoir de la joie, du plaisir et une profonde reconnaissance pour cette prière, la façon dont il s'est adressé à Dieu. Et en cela, combien également Jésus-Christ, on a vu que combien Jésus-Christ est plus grand également que Salomon dans ce qu'il a accompli. Et donc, là, aujourd'hui, donc, on a l'arrivée de Salomon au trône, sa sagesse, et là, on va voir de nouveau, ça fait comme un chiasme, là, on va parler de nouveau de sa sagesse, et on verra sa fin. Également la semaine prochaine, donc vous verrez, ça fait non seulement un chiasme, mais quelque chose qui monte et qui descend. Alors pour aujourd'hui, on va continuer de parler de la sagesse de Salomon, mais aussi de sa gloire, selon le don que Dieu lui avait fait. Et on fera le parallèle avec Jésus-Christ. Le titre du message est le suivant, le triomphe de la sagesse, le triomphe de la sagesse. Alors on va en faire en trois parties. Le texte est un peu long. On va le voir en trois parties. Un roi, chapitre 9, on va lire des versets 10 à 28 pour commencer. Un roi, chapitre 9, versets 10 à 28. Au bout de 20 ans, Salomon avait construit les deux maisons, la maison de l'Éternel et le palais royal. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, lui avait fourni autant de bois et de cèdre et de cyprès, ainsi que d'or qu'il avait voulu, le roi Salomon lui donna 20 villes situées en Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui avait donné Salomon, mais elles ne lui plurent pas. Il dit, « Quelle ville m'as-tu donné là, mon frère ?» Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Hiram avait envoyé au roi plus de 3,5 tonnes d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée, que le roi Salomon enrôla pour construire la maison de l'Éternel, sa propre maison, ainsi que Millo, la muraille de Jérusalem, Hatsor, Megiddo et Gézer. Le pharaon, le roi d'Égypte, était venu s'emparer de la ville de Gézer, l'avait incendiée, avait tué les Chaldéens qui y habitaient, puis il l'avait donnée pour dot à sa fille, la femme de Salomon. Salomon reconstruisait alors Gézer, Bethorom, la basse, Balat et Tadmor, dans la région désertique du pays. Il construisit aussi toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt. Les villes destinées à accueillir les chars, celles qui étaient réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qui lui plut de construire. À Jérusalem, au Liban, et dans tout le territoire dont il était le souverain. Il y avait toute une population issue des Amoréens, des Hittites, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens qui avaient survécu, et qui ne faisaient pas partie des Israélites. Leurs descendants étaient restés près d'eux dans le pays, parce que les Israélites n'avaient pas pu les vouer à la destruction. Salomon les enrôla comme esclaves pour la corvée, statut qui leur est resté jusqu'à ce jour. En revanche, Salomon n'employa pas les Israélites comme esclaves. Ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses écuyers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs des officiers désignés comme responsables des travaux pour Salomon étaient au nombre de 550 et ils avaient autorité sur les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la ville de David jusqu'à sa propre maison, celle que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il construisit Millo. Millo, entre parenthèses, c'est la partie qu'il y avait entre la cité de David, la forteresse historique de Jérusalem, et l'ère des Ravna, où il avait eu lieu à la construction du temple, donc il y avait eu un grand rempli qui avait été fait entre les deux, qu'on appelle le milieu. Salomon offrit 3 fois par année les holocaustes et les sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait construit, à l'honneur de l'Éternel. Il brûla des parfums sur celui qui se trouvait devant l'Éternel, et c'est ainsi que le temple fut terminé. Le roi Salomon construisit des bateaux à Ezion-Guéber, puis près d'Elat, sur le bord de la mer des roseaux, mer rouge, dans le pays de Don. Hiram envoya sur ses bateaux, aux côtés de serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des marins expérimentés. Ils allèrent à Ophir et ils apportèrent près de 13 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. Le triomphe de la sagesse est cette première partie. La sagesse construit la réussite. Mais tout au début, on voit que malgré les meilleurs dons que Dieu puisse nous faire, les hommes restent des hommes et ils sont faillibles. Certes, David avait préparé tout ce qui était nécessaire pour la construction du temple. Tous les matériaux étaient prêts, on apprend cela dans le livre des Chroniques. Mais pour la construction du palais, Salomon s'est un peu endetté, on pourrait dire, auprès du roi de Tyr, Hiram. Et on a vu qu'il y avait ces mentions de 3,5 tonnes d'or qui avaient été dépensées pour le reste des constructions. On ressent quelque part un déchirement de Salomon quand il doit céder une partie du territoire d'Israël qui était la terre que Dieu avait donnée à Israël comme possession. Il doit se séparer des villes là qui étaient proches de la frontière avec le roi de Tyr. Et là, on voit que bon, ces villes là, c'était pas de bonne qualité ce qu'il lui avait donné. Il avait fait en quelque sorte le minimum. Et bon, il y avait la sagesse de Salomon n'était pas parfaite, donc hein, on voit que Dieu donne des dons spirituels aux uns et aux autres. Hein. Ces dons sont pour le bien commun, mais on ne doit pas s'attendre à recevoir et à exercer de façon parfaite les dons qu'il nous donne. Hein. On ne doit pas placer la confiance dans les dons que l'on a. Mais l'on doit placer toujours notre confiance en celui qui donne les dons. Et souvent, on fait le ménage. Malgré les meilleurs dons, les hommes sont faillibles. Les constructions ne se font pas toutes seules non plus. Il suffisait pas que Salomon décrète les choses. Il fallait qu'il y ait des personnes pour les réaliser. Certainement, ce qu'il a envisagé, ce qu'il a fait était acceptable pour la population, cela contribuait au bien du pays. Et la parole de Dieu rend honneur ici aux personnes qui ont fait ce travail. On peut trouver répugnant l'idée de ces esclaves, voilà, ils ont été contraints de faire un travail de force. Mais à l'époque, il y avait une culture, c'est 3000 ans en arrière, et il n'y avait pas d'autre façon de construire, c'était des labeurs qui étaient difficiles et qu'on n'avait pas envie de faire. Et souvent, les constructions étaient faites un peu sous la contrainte. Dans tous les cas, le texte met en contraste la façon dont Salomon a opéré et la façon dont un autre souverain qui lui était voisin et son contemporain, le pharaon, vous avez l'exemple de la façon dont lui, il opérait. Hein. Vous avez vu comment il a détruit une ville Il a livré un cadeau pour sa fille, une ville complètement détruite. Et donc Salomon l'a reconstruite. Mais bon, on voit les deux approches différentes de ces deux souverains. Et c'est important de mettre tout en relation pour se faire une idée. Et de ne pas juger des personnes qui a 3 millions à l'arrière avec les conditions de vie que nous avons aujourd'hui, les conditions surtout de construction que nous avons aujourd'hui. C'est valable pour toutes les époques. En tout cas, Dieu ici veut mentionner toutes ces personnes qui ont fait le travail. La sagesse, on ne réussit pas tout seul également. Vous avez vu la dernière partie, il y a l'idée d'ouvrir une route maritime au sud, qui partait donc à l'extrémité de la mer Rouge, et puis qui descend pour pouvoir atteindre toute l'Afrique australe. Et donc c'était pas une mince expédition, et là, d'autres après lui ont essayé, mais là, Salomon savait qu'il avait besoin de l'aide encore de Hiram. Les Phéniciens étaient des marins expérimentés, c'était les seuls à savoir construire ce qu'on appelait les bateaux de Tarsi, là, des bateaux capables d'affronter la haute mer et de traverser à l'époque toute la mer Méditerranée. Donc, il avait besoin de l'aide des Phéniciens. C'était pas une mince affaire de faire cela, et l'entreprise est un succès. On va le voir. Ce qui est un succès, je trouve, c'est que donc il ramène de l'or, mais ce qui est un succès, c'est la fidélité de ces marins envers le roi Salomon. Il ramène 13 tonnes d'or, une fortune. Moi, je m'imagine, ces marins, ils sont là, libres sur la mer, ils peuvent aller où ils veulent avec leur bateau, mais on va pas revenir donner ça à Salomon, on le garde pour nous. Hein, 13 tonnes, il y en a 500 kilos pour chacun, ça va. On a de quoi passer des jours tranquilles avec ça. Mais ils ont, ce que je trouve vraiment remarquable, c'est qu'ils ont été fidèles pour ramener cela à Salomon. Tous les coachs, tous les entraîneurs, tous les managers savent que le succès ne repose pas sur des individus. Le succès repose sur une équipe, hein, sur un esprit d'équipe. Et c'était, on peut imaginer que cet projet, c'était pas le projet pour enrichir Salomon, c'était le projet pour enrichir un pays. Et donc ils ont, j'imagine que tous ces marins ont adhéré au projet de Salomon, et ce projet a été un succès, il a été bien mené, Dieu avait donné de la sagesse à Salomon. Voyons voir la suite maintenant de notre texte. On va lire un autre passage qui est un petit peu le vis-à-vis de ce qu'on avait vu au niveau de la sagesse. Vous savez, quand il y avait eu ce jugement avec ces deux femmes qui se disputaient un bébé. 1 Roi 11, versets 1 à 13. 1 Roi 10, 11, 11, pardon, 1 Roi 10, versets 1 à 13. Pardon. Oui. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel. La réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Verset 3, Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions, les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Et elle eut le souffle coupé. Elle dit au roi, « C'était donc vrai, Ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse, je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. On ne m'en avait pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Verset 8. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël et qu'il t'a établi roi, pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates, des pierres précieuses et une bien plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les bateaux de Hiram, qui rapportèrent de l'or d'Ophir, ramenèrent aussi une grande quantité de bois de santal et de pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des arpes, des luttes pour les musiciens. Il ne vient plus de ce bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Cette deuxième partie, je l'ai appelée, nommée « La sagesse est plus attirante que l'or ». La sagesse est plus attirante que l'or. Il est beaucoup de questions d'or dans ce chapitre, mais on voit que la sagesse est un bien infiniment plus précieux que l'or. Deux premiers versets, si vous avez le texte sous vos yeux. La sagesse attire, versets 1 et 2. La reine de Séba entreprend un long voyage parce qu'elle a des questions. Quelles pouvaient être ces questions et les réponses? Moi, j'aurais aimé trouver les questions et les réponses. Je dois dire, ça m'aurait vraiment très intéressé. Avez-vous des questions sans réponse? Avez-vous des questions sans réponse? Moi, je pense que les questions métaphysiques sont de première importance. D'où on est? Pourquoi la vie? Pourquoi le sens de la vie? Qu'est-ce qu'il y a au-delà des apparences? Au-delà de ce que Salomon lui-même appelait la vanité des vanités, que tout semble vide, tout semble tourner sur lui-même. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Ça peut être des questions peut-être qui intéressaient la reine de Séba. La sagesse, le besoin d'avoir des réponses, la sagesse l'a attirée à entreprendre un long voyage. Séba, c'était au Yémen actuel, 2500 km de Jérusalem, a voyagé à pied à l'époque. Elle a fait ce voyage avec tout son monde. Elle a quitté pendant longtemps la direction de son royaume parce qu'elle avait des questions et qu'elle avait entendu parler de Salomon qui était l'homme le plus sage de la terre et il fallait qu'elle aille. C'était plus important que tout pour elle. Salomon lui donne toutes les explications, mais il y a quelque chose qui accompagne ces explications. Versets 3 à 5. Salomon est un roi crédible. Elle a tout ce qui entoure Salomon. C'est quelque chose, si quelqu'un vous avez des questions, il vous donne une réponse, pourquoi le croiriez-vous? Mais devant Salomon, devant ce qu'il était, devant sa réussite, devant tout ce qui l'entourait, ce que dit ce roi, je peux m'appuyer dessus. Je peux lui faire confiance. La sagesse est crédible dans ce qu'elle produit, dans ce qu'elle manifeste. Salomon était un roi crédible. On pouvait écouter et s'appuyer sur ce qu'il disait. Versets 6 à 9. Très beau passage. La sagesse est bénédiction. Heureux les hommes, heureux tes serviteurs, dit cette reine. beau témoignage. Ils peuvent bénéficier de ta sagesse. Si c'est là, ils t'écoutent toute la journée. Waouh! Waouh! Ils sont bénis. Et ils rendent gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. Non pas parce que Israël serait mieux, mais parce qu'il aime Israël et qu'il lui accorde le droit et la justice, un bien précieux sans lequel il n'y a pas de paix. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. La sagesse est bénédiction. La sagesse est aussi récompensée. La reine donne au roi l'équivalent du montant de prêt. Vous avez vu, 3,5 tonnes. C'était ce que Hiram lui avait prêté à Salomon pour construire, pour faire ses constructions, ses aménagements dans la première moitié de sa vie, de son règne, pardon. Et voilà que là, il reçoit exactement la même somme de cette reine qui lui amène. Voilà. La sagesse est généreuse. Mais Salomon donne à la reine de son côté tout ce que la reine lui demande. Je ne sais pas ce qu'elle avait demandé. Tout ce, voilà, ce que tu veux, demande-moi et ce sera à toi. Quoi ? Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait une proposition de ce genre ? Hein ? La sagesse ne se monnaie pas. La sagesse, Salomon n'était débiteur de personne. À partir de ce moment-là, au moins, je pense qu'à l'histoire de Hiram, ça lui avait servi de leçon. Il n'était débiteur de personne. Et la reine de Séba va repartir chez elle avec encore plus de choses que ce qu'elle avait amené. La sagesse n'est pas débiteur. Salomon n'est pas débiteur de la reine de Séba. Il ne lui doit rien de tous les cadeaux qu'il lui a apportés. La sagesse est généreuse. Avançons maintenant encore dans notre texte. Est-ce que vous savez ce que c'est le soft power ? On en parle beaucoup de soft power. Je vous donne un petit mot d'introduction pour que, à la lecture du texte, vous puissiez repérer ces choses-là. Récemment, le PSG, il a gagné la Coupe des Champions. Et c'est une gloire pour le PSG, c'est une gloire pour la France. Mais tout le monde sait que celui qui a financé, c'est les Qatars. Et on dit, ben voilà, c'est aussi une gloire pour le Qatar, finalement. C'est lui le propriétaire du club, c'est ce qu'on appelle la soft power. Le Qatar s'est élevé aux yeux des Français par cette victoire qu'a eue le PSG. C'est ce qu'on appelle le soft power. Mais vous allez voir ici dans notre texte que la sagesse aussi a du soft power, mais pas du tout de la même manière. On va le voir. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était près de 20 tonnes. En plus de ce qu'il retirait des négociants et du trafic commercial. Ainsi que tous les mois, que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu. Pour chacun, il employa 7 kilos d'or. Et il fit aussi 300 autres boucliers en or battu. Pour chacun, il employa 2 kilos d'or. Et il les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches et son dossier était arrondi par derrière. Il y avait des bras à chaque côté du siège. 2 lions se trouvaient près des bras. 12 lions sur les 6 marches de chaque côté. On n'avait jamais rien fait de pareil dans aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or. Toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban, cette grande maison, vous savez, avec 35 appartements de 70 mètres carrés, je crois que c'était ça. Tout était en or pur, rien n'était en argent, on n'en faisait aucun cas de l'époque de Salomon. En effet, le roi avait des bateaux longs courriers, bateaux de Tarsis, donc. Il les avait en mer avec ceux de Hiram. Tous les trois ans, les bateaux long courriers arrivaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes, de pain. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et de sa sagesse, tous les rois de la terre de son époque, hein, selon ce que Dieu lui avait dit. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Chacun apportait son cadeau, des objets en argent, en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon réunit des chars, de la cavalerie. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars à Jérusalem et à Jérusalem près de lui. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte, 150 pièces pour un cheval, prix fixe. Il en ramenait de même à tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Le triomphe de la sagesse, partie 3, la sagesse est la puissance douce. La sagesse est la puissance douce. On voit que l'or afflue dans le royaume d'Israël. On ne compte plus les richesses. 20 tonnes d'or qui arrivent par bateau tous les ans. Ce qu'on appelle le ruissellement. Là, ça ruisselle partout. Hein. La prospérité ruisselle de toutes parts. Et visiblement, tout le monde en profite. Que fait Salomon de son or? C'est la question que je me suis penché. Qu'est-ce qu'il faisait avec tout cet or? Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de ces tonnes d'or? C'est impressionnant. Il est question ici de l'utilisation qu'il en a fait avec des boucliers. Bon, si on fait le total de l'or qu'il a utilisé pour les boucliers, ça fait pas tant que ça. Des boucliers sont également des armes de défense. Pourquoi les faire en or? Vous imaginez un petit peu, maintenant on parle pour défendre un pays, non pas de boucliers mais de dômes de fer. Hein, on a les dômes qui protègent des missiles qui arrivent. Personne n'a l'idée de prendre les missiles et puis de les parer d'or comme ça. Voilà, de les décorer, de les artistiquement. Ça ne se fait pas, mais Salomon, lui, faisait cela. On a l'impression, à lire ce texte, que tout ce qui relève du militaire, ça fait comme de la décoration, toutes ces cavaleries, ces chars qu'il a autour de lui. C'est là, mais c'est pas là pour servir. C'est là... Mais on est en période de paix, la paix est générale et la paix est assurée. Et toutes ces choses ne serviront finalement jamais. Que fait Salomon de son or? Apparemment, tout est redistribué. Et effectivement, à la mort de Salomon, Pharaon viendra faire la conquête de Jérusalem. Et là, qu'est-ce qu'il va reprendre? Ben, la Bible mentionne et il reprend les boucliers en or. Il n'y a nullement mention d'immenses cargaisons d'or. Visiblement, Salomon redistribuait tout cet or qui arrivait. L'or afflue dans le royaume d'Israël, mais il est redistribué. Les versets 22 à 29, on voit particulièrement le rayonnement du royaume de Salomon, un tout petit pays, un pays tout petit. Israël, c'était vraiment je préparais une carte là, la distance donc entre le Yémen et Israël, vous faites un cercle tout autour, ça montre un petit peu l'étendue du rayonnement de Salomon, ce tout petit pays, comment il était connu de toutes parts et comment Salomon surpassait, et Israël surpassait tous les autres royaume. tout le monde veut voir Salomon et tout le monde est bien accueilli par Salomon. C'est un personnage incontournable de l'époque pour tous les souverains. J'ai remarqué également, je vous invite à remarquer cette histoire de négoce, de trafic. Les prix sont fixes. Pas de spéculation du temps de Salomon, pas de variation du cours de pétrole et d'aléas de toutes sortes. Non, les prix sont fixes, tout est prévisible, tout est stable. C'est la paix. Et cela ne dérange pas du tout Salomon de prendre d'armer en quelque sorte tous les pays qui l'entourent avec des cavaliers, des chars. Non, ça ne le dérange pas du tout. Il fait profiter tout le monde d'avoir des armées avec des cavaliers, des chars. C'est la paix. La force d'Israël ne repose pas sur ses armes. La force d'Israël ne repose pas sur ses armes, mais sur la sagesse de son roi Salomon et de son Dieu qui lui a donné la sagesse, bien sûr. Celui qui donne est plus grand que le don qu'il fait lui-même. Dieu a donné la sagesse à Salomon et Dieu est plus grand que la sagesse de Salomon. Il faut toujours garder ça en tête, ce que Dieu est toujours plus grand que les dons qu'il fait et il peut nous donner beaucoup de choses. Avant de voir la dernière partie avec Jésus-Christ, je voudrais faire une transition. Si on revient un petit peu au chapitre 3, verset 9, on avait lu ceci, la prière de Salomon. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. Un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Et on a ici les conséquences de la réponse de Dieu à cette demande. Dieu, Salomon, avait demandé la sagesse. Et on voit l'effet qu'il a eu de cette demande, de don que Dieu lui avait fait de la sagesse, et il avait ajouté la richesse, parce que la sagesse et la richesse ne sont pas toujours liées dans la parole de Dieu. Il y a d'autres exemples précis que Salomon rapporte lui-même dans ses écrits, où la sagesse n'est pas liée forcément à la richesse. La richesse est un plus, mais ici, regardons les conséquences. Je vous avais encouragé à l'époque à de quoi j'ai besoin pour faire le job que Dieu me confie. De quoi j'ai besoin? Et c'est un encouragement à demander à Dieu mon rôle, ma mission sur la terre, telle que je comprends aujourd'hui. De quoi j'ai besoin pour l'accomplir? Qu'est-ce qui me manque? Salomon avait demandé la sagesse et on voit la conséquence que cela a eu. Nous aussi, on n'est pas Salomon, mais on peut demander à Dieu ce qui nous manque pour faire notre job ici, sur terre, pour faire, pour la gloire de Dieu, ce pourquoi il nous donne le souffle de la vie. Dans ma transition, je rajouterai qu'il y a dans notre texte quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Tout semble aller pour le mieux en Israël. Le pays est au sommet de sa gloire. Jusqu'à présent, Israël n'a jamais eu la gloire qu'il avait du temps de Salomon. Toutes les bénédictions prophétiques de Moïse semblent avoir eu leur accomplissement. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Si vous prenez votre Bible et vous ouvrez la Torah, en Deutéronome, chapitre 4, verset 9, on y lit ceci. Deutéronome 4, verset 9. Donc, ils ont fait tout le voyage dans le désert et le peuple est prêt à rentrer dans la terre promise. Et voilà ce que leur dit Moïse. Chapitre Deutéronome 4, verset 5. Pardon, au verset 9. Deutéronome 4, verset 5, au verset 9. Cherchez ce texte, ouvrez-le, lisons-le ensemble. Moïse dit au peuple, « Voici, je vous ai enseigné des lois, des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, votre intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel et notre Dieu ? Aussi proches que l'Éternel l'est chaque fois que nous l'invoquons. Quelle est la grande nation qui ait des lois, des ordonnances justes comme cette loi que je vous ai prescrite aujourd'hui, verset 9, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il y a quelque chose qui cloche dans ce texte. Nulle part, il n'est fait mention de la loi de Dieu. Nulle part. Elle n'est pas citée. Dans les apparences, tout semble aller, mais quelque chose cloche. Et on va voir ça dans la suite du texte. Alors, quel rapport avec notre 20e siècle, 3000 ans plus tard? Jésus-Christ est la sagesse triomphante. Jésus-Christ construit son église, on en a beaucoup parlé. Il n'a jamais eu d'armée, il n'a jamais eu de soldats, il n'a jamais eu de chef militaire. Pourtant, son règne avance sur toute la terre. Peut-être pas chez nous, on ne le voit pas, en Europe, mais en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, c'est spectaculaire. La terre entière est comme un chantier en construction. Des hommes et des femmes sont transformés petit à petit, on en a parlé, de ces pierres façonnées. Partout, sur toute la terre, pour la gloire de Dieu. Les serviteurs de Jésus sont nombreux et à la peine, du moins ils devraient l'être. Hein. Juste je vous lis un extrait de la 2 Corinthiens 5, 11-21, en pensant à tous ces hommes qui trimaient pour faire ces constructions. Ainsi donc, puisque nous avons la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, Jésus, c'est enfin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus est tellement plus grand que Salomon pour nous. Nous faisons donc office des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous, qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Jésus-Christ construit son Église et Jésus-Christ attire. Lors du jugement de la reine de Séba, dit Jésus, Matthieu 12, 42. La reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, dit-elle à ses auditeurs, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon, il y a Jésus. Les foules suivaient Jésus. Elles étaient attirées irrésistiblement par son enseignement. Et ce n'étaient pas des religieux. En Jean 12, 32, Jésus a dit « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et en parlant de ça, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Jésus-Christ attire aujourd'hui. Et Jésus-Christ est là, soft power. Comment trouvez-vous les puissants de notre monde? Si je vous dis les noms de Trump, de Poutine, de Zelensky, de Netanyahou, d'Ali Khamenei, sont-ils sages? Sont-ils sages? En tout cas pas de la sagesse de Dieu. Une belle illustration du verdict posé sur l'humanité entière, sur tous les hommes, en Romains 3, 11, 18. Aucun d'eux n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont des lèvres, sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédictions, d'amertume, leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Comment trouvez-vous les commentateurs de l'actualité de ce monde? On a beaucoup de commentateurs. Sont-ils sages? Pas du point de vue de Dieu. Notre président est-il sage? Qu'en pensez-vous? Où est le sage? 1 Corinthiens 3, 20, 23. Où est le spécialiste de la loi? Où sont les discoureurs de l'heure actuelle, de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication de Jésus, l'annonce de Jésus. Les Juifs demandent un signe miraculeux, les Grecs recherchent la sagesse, or nous chrétiens, nous prêchons, nous annonçons un Messie crucifié. C'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les non-Juifs. Mais c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou pas. Jésus-Christ est la soft power de Dieu. Auprès de lui, nous trouvons la réponse à nos questions les plus profondes en contemplant Jésus-Christ à la croix. Auprès de lui, nous trouvons la paix du cœur en contemplant Jésus-Christ à la croix, en méditant sur lui, sur les raisons pour lesquelles il a été suspendu sur le bois. Auprès de lui, nous trouvons justice et sagesse. Il nous a racheté du mal à un prix élevé, un prix que tout l'or du monde ne pouvait pas financer. Le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu est formelle. Un jour, tout genou fléchira devant Jésus-Christ, le roi sage dont l'humanité et chacun de nous avons besoin. Alors, en attendant ce jour où tout genou fléchira, on est invité à le faire, bien sûr, par anticipation et dès aujourd'hui, de fléchir le genou devant Jésus-Christ, de recevoir de lui cette sagesse, de recevoir de lui cette paix, de recevoir de lui cette justice pour nos vies, le pardon de nos fautes. Je vous propose un chant pour terminer qui s'appelle « Jésus-Christ est ma sagesse ». Alors, on peut le chanter comme une prière. Et puis après, on pourra avoir un moment de prière.